Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. En Australie, le Parti travailliste qui engagera 15 millions de dollars sur 3 ans pour des écoles de langue communautaire. Le Premier ministre ukrainien Denis Chmyhal a déclaré que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'Union européenne. Et en sport, en tennis, l'Australien Alex de Minaur se qualifie pour les demi-finales de l'Open de Barcelone. Et on débute avec l'élection fédérale en Australie et la campagne qui bat son plein. Le Parti travailliste a annoncé une politique visant à engager 15 millions de dollars sur 3 ans pour financer des cours de langue autres que l'anglais dans des écoles de langue communautaire. Le plan prévoit de donner à chaque école de langue communautaire, donc à travers le pays, une augmentation de financement de 30 000 dollars. Tania Plibersek, la porte-parole sur l'éducation, a déclaré à ABC News Breakfast qu'il existe actuellement 780 écoles de ce type en Australie. On l'écoute.
They're teaching about 100,000 kids. Most of them are learning a language that their parents or their grandparents spoke in the country of their origin. And it is a great opportunity to learn a second language. We know that that's good for all kids. We want to make sure that more kids can learn a second language and they can learn it from an earlier age.
Voilà, donc Tania Plibersek, la porte-parole de l'éducation pour le Parti travailliste. D'après le ministre des Finances, Josh Frydenberg, l'ancien Premier ministre John Howard se joindra à une partie de la campagne électorale du Parti libéral, tout en déclarant sur Channel 9 ce matin que John Howard était, je cite, « sur la même longueur d'onde concernant les politiques économiques de la coalition ». On écoute Josh Frydenberg.
Cost of living is a major issue. National security is a major issue. And he was very complimentary about the measures that we had in the budget, which we outlined as part of our broader economic plan just over 2 weeks ago. He supports the measures that we've got to increase investment by small business in their workforce, in technology. He supports what we're doing through the regions as the new frontiers of economic growth.
C'était Josh Frydenberg. On va passer maintenant à la campagne électorale en France. Elle est officiellement terminée depuis quelques heures. Elle fait place donc maintenant à la fameuse période de réflexion qui laisse donc aux Français le temps de réfléchir sur tout ce qui a été dit. Il n'y aura donc plus de sondages ou encore de mots des candidats ou de leur parti à partir de maintenant et ce jusqu'à 20h dimanche, heure de Paris. Vous pourrez voter un peu partout à travers l'Australie pour ce second tour de l'élection présidentielle. Renseignez-vous s'il n'est encore temps auprès de vos consulats respectifs. On a d'ailleurs commencé à voter dans certains endroits en France. Et oui, comme dans les prisons, 11 000 personnes avaient voté au premier tour. Donc dans les prisons, on écoute ce reportage de Nathanaël Blin pour RFI.
Vous prenez une petite enveloppe bleue, les deux bulletins des deux candidats.
Si on fait abstraction des gardiens et des lourdes portes à barreaux, le bureau de vote installé dans le gymnase de la prison ressemble à n'importe quel autre. Pour ce détenu qui préfère rester anonyme, c'est une toute première fois.
Ça fait 18 mois que je suis incarcéré. Avec ce temps-là, j'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses. Quand j'ai vu qu'il y avait les élections, j'ai demandé si je pouvais m'inscrire sur les listes électorales.
Oui.
Il y a un circuit à faire, il y a un isoloir. Et puis à la fin, on met dans la petite boîte et on nous dit qu'on a voté. Et...
À voter.
C'est comme si on était dehors, en fait.
Ce nouveau système de vote, un succès indéniable pour le directeur de la prison, Michael Mercier.
Au premier tour, ici, sur les 600 personnes qui étaient éligibles au vote, il y en avait 320 qui s'étaient inscrites. Il y en a 271 qui ont pu voter, soit 45% de taux de participation, ce qui est plutôt un très bon score. Et la grande majorité des personnes qui ont voté n'avaient jamais voté de leur vie.
Des détenus aux préoccupations similaires à celles de tous les Français.
Déjà l'écologie, parce que forcément, là, je vais bientôt avoir un enfant, donc c'est important quand on pense à l'avenir. L'économie, quand même, on sort d'une crise sanitaire.
Dans un établissement rempli, comme beaucoup d'autres, à 180% de sa capacité, où les détenus sont obligés de partager leurs cellules, certains, comme Enzo, ont quand même scruté les programmes.
C'est vrai, je me suis plus intéressé au débat quand tu parlais des prisonniers et sur l'incarcération.
Les bulletins seront envoyés au ministère de la Justice, où ils seront dépouillés dimanche de manière anonyme et intégrés à ceux du premier arrondissement de Paris.
À voter!
Et c'était un reportage de Nathanaël Blin pour RFI. Si vous voulez en savoir plus sur les élections qui arrivent, donc notamment l'élection présidentielle en France et également la législative, ou les législatives plutôt, qui arrivent dans la foulée également, eh bien, restez à l'écoute de ce programme. Nous en parlons un peu plus tard dans notre épisode d'Europa Voice pour ce samedi. À 13h06, direction l'Ukraine maintenant. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a remercié les États-Unis pour leur soutien militaire et financier lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'était à Washington. Il a également déclaré que l'Ukraine voulait rejoindre, et je cite, le monde civilisé de l'Union européenne. Et surtout, il a déclaré que la plupart des Ukrainiens veulent maintenant faire partie de l'Union européenne. On l'écoute.
The biggest quantity of our people, more than 96% of Ukrainians, strongly would like to be part of European family, part of civilized world, but not part of Soviet Union or Russian Empire.
Voilà donc le Premier ministre ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ses alliés pour l'assistance militaire, affirmant que les armes sauveront des vies et des milliers de personnes. Il dit que cela montrera à la Russie que le jour, un jour ou l'autre, ils seront forcés de quitter l'Ukraine et que ce jour approche. Volodymyr Zelensky a également remercié le gouvernement britannique après que le Premier ministre Boris Johnson ait annoncé son intention de rouvrir son ambassade à Kiev la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'ambassade française à Kiev a, elle, été rouverte la semaine dernière. On écoute le président ukrainien.
I am grateful to our British friends for the important symbolic decision announced today to return the embassy to Kyiv. The United Kingdom became the 21st country to return the diplomatic mission to our capital, and this shows that we are not the only ones who believe in the victory of life over death.
13h08, retour en France maintenant, et la justice française qui vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien PDG du groupe automobile Renault. Le franco-libanais avait déjà fui la justice dans une évasion rocambolesque, c'était au Japon, depuis le Japon il y a 3 ans. Les explications, les retours sur cette affaire avec Alexis Bédu pour RFI.
La justice française s'intéresse à des paiements suspects d'un montant total de 15 millions d'euros entre l'alliance Renault-Nissan que dirigeait Carlos Ghosn à l'époque des faits et le distributeur du constructeur à Oman. Il y aurait des soupçons de rétrocommission en faveur de l'ancien PDG de Renault. Une enquête qui s'est élargie il y a quelques mois au chef de corruption. La justice soupçonne également Carlos Ghosn d'avoir tiré un bénéfice personnel d'une convention de mécénat entre Renault et l'établissement qui gère le château de Versailles en y organisant 2 soirées privées. Alors Carlos Ghosn vit toujours au Liban depuis sa fuite du Japon fin 2019. Il a déjà échappé à un procès à Tokyo pour malversation financière car le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Il est hors de portée de la justice japonaise, mais qu'en sera-t-il de la justice française ? L'avocat de l'homme d'affaires s'étonne de ce mandat d'arrêt international, assurant que son client fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais et qu'une extradition vers la France serait dès lors impossible. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a déclaré ce matin qu'il ne ferait aucun commentaire. Il appelle à laisser la justice faire son travail.
Et c'était Alexis Bédu pour RFI. Aux États-Unis, des militants de droits civiques exigent des autorités du Michigan qu'ils divulguent le nom du policier qui a tué Patrick Liolia, un jeune homme de 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo. Monsieur Liolia a été mortellement touché à la tête par un officier à la suite d'un contrôle routier. C'était à Grand Rapids au début du mois, c'était exactement le 4 avril. Le révérend Al Sharpton a prononcé son éloge funèbre, donc c'était pendant ses obsèques, et a demandé que le nom de l'officier de police du Michigan soit nommé. On l'écoute.
Every time a young black man or woman is arrested in this town, you put their name all over the news.
Wakati yoyote wanafunga kijana hapa mwa inchi, mu Grand Rapide wanatiaka jina yake inje.
Every time we are suspected of something,
wakati yote wakitususpecte na kitu yoyote,
you put our name out there.
Unatia jina yetu kule.
How dare you hold the name of a man that killed this man?
Voilà, éloge funèbre, hein, plutôt émouvante, du révérend Al Sharpton. C'était dans le Michigan. L'ancien président du Kenya, Mwai Kibaki, est décédé à l'âge de 90 ans. L'actuel président du pays, Uhuru Kenyatta, a déclaré donc que l'ancien président restera à jamais dans les mémoires comme un gentleman de la politique kenyane, un brillant débatteur et celui qui a dirigé le développement du pays. Fin de citation. Monsieur Kibaki a servi deux mandats en tant que président du pays. C'était de 2002 à 2013. La gouverneure du comté de Kitui, Charity Ngui, dit que le ministre de cabinet sous son gouvernement, elle était ministre de cabinet sous son gouvernement, eh bien, elle lui a rendu hommage. On l'écoute.
Late President Kibaki spearheaded this country out of terrible economic time of the 90s in ensuring that we got a real economic state of country where everybody.
Used to say that we are proud to be Kenyans.
We will miss him. We will miss his leadership. We will miss his guidance, his political strength.
Voilà, 13h12, on parle de sport maintenant. Le numéro 1 australien en tennis, Alex de Minaur, jouera les demi-finales de l'Open de Barcelone. Je vous le disais en titre, il a gagné deux matchs sur la terre battue espagnole. Le jeune homme de 23 ans, il est originaire de Sydney, a rabattu Lloyd Harris, le Sud-Africain. Et il a battu également Cameron Norrie en quart de finale sur le score de 6-3, 5-7, 6-1. L'Australien sera opposé à Carlos Alcaraz Garfia, la nouvelle coqueluche du public qui court pour l'instant numéro 11 mondial. Le match aura lieu dimanche. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth cet après-midi, il fera 27 degrés. À Adélaïde, vous aurez 23 degrés. Melbourne, 19. Également 19 à Hobart. Canberra, vous aurez 19 également. Sydney, 22 degrés. 25 degrés à Brisbane. Cairns, vous aurez 28 degrés. Et La Palme, comme à chaque fois qu'on présente cette émission, revient à Darwin avec 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Parti travailliste qui s'engage à donner 15 millions de dollars sur 3 ans pour les écoles pour apprendre les langues étrangères, autres donc que l'anglais. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'Union européenne. C'est un moment important et on vient de le voir. L'Australien Alex de Minaur qui se qualifie pour les demi-finales de l'Open de Barcelone.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.